Juste un très très rapide récapitulatif de la semaine dernière. Juste un petit récapitulatif donc de la semaine dernière, c'est que pourquoi est-ce qu'on se tourne vers l'Ancien Testament pour étudier l'adoration, nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament? Bien, premièrement, il n'y a pas une complète discontinuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La Bible est un tout. La Bible, on parle d'une révélation progressive. Donc, Dieu se fait de plus en plus connaître à nous. Et il n'y a pas une coupure complète entre les deux. Au contraire, il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'Ancien Testament qui vont soit se transformer dans le Nouveau. Il va y avoir un élément de discontinuité. Il y a des choses qui vont changer. Par exemple, on va rarement au temple adorer, nous, comme chrétiens, n'est-ce pas? Pour ne pas dire jamais, ou peut-être un autre temple, mais on y viendra. Donc, il y a des éléments de discontinuité, mais il y a définitivement des choses qui sont très, très, très similaires, ou en fait, qui sont vraiment en parfaite continuité, même si des fois la forme va changer un peu. Donc, on va vers l'Ancien Testament pour apprendre comment adorer, puis on va découvrir dans le Nouveau Testament comment l'adoration évolue au fur et à mesure que Christ va nous faire connaître d'autres choses encore sur la personne de Dieu. Un des éléments importants à retenir lorsqu'on pense à l'adoration pour les chrétiens, qui déjà va faire une distinction, les chrétiens et les juifs, qui vont déjà faire une distinction importante avec ce qu'on va voir généralement dans notre culture, ben les gens peuvent comprendre, je pense, lorsqu'on parle d'adoration, qu'on parle d'une relation avec Dieu, mais les gens en général vont vouloir imaginer Dieu tel qu'ils désirent le concevoir. Puis les Écritures nous aident à réaliser qu'en fait, c'est sur la base de la révélation de Dieu qu'on va l'adorer. On adore un Dieu qui prend l'initiative de se faire connaître à nous. Autrement, on adorerait à l'aveugle. On s'adresserait au Dieu qu'on ne connaît pas, mais qu'intuitivement on perçoit. Puis la connaissance qu'on aurait de lui serait minime, infime. Et donc, l'adoration pour nous est toujours une réponse à la révélation. C'est toujours une réponse à la révélation de Dieu. Puis là, on ne parle pas de la révélation, encore une fois, générale, comme à travers la nature, le soleil, un coucher de soleil, un enfant qui naît. Ça nous révèle des choses sur Dieu. Quand tu as un petit bébé dans les bras, il y a des choses qui sont révélées sur Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est brillant, Dieu aime les belles choses, Dieu aime, il nous donne les sentiments d'amour. Il y a plein de choses que je peux découvrir sur Dieu. Mais ça, c'est la révélation générale. C'est en somme quand même très, très, très limité. C'est plus par intuition que par certitude, même s'il y a certaines certitudes qui sont là dans nos cœurs. On se tourne vers la révélation spéciale, qui est la révélation qui vient des Écritures. Puis ça, je le dis, là, c'est une évidence pour vous, je le conçois, mais c'est important parce que lorsque je veux grandir comme adorateur, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller vers les Écritures. La première chose que je vais faire, je vais aller vers les Écritures parce que je veux qu'il se fasse connaître à moi, puis mon adoration va être une réponse à lui. Fait que si tu dis, écoute, l'adoration, c'est comme moi, à part les chants le dimanche matin, remercier Dieu pour les choses qu'il m'a données cette semaine, c'est obscur, puis je ne sais pas, ça me branche pas, là, l'adoration, mais probablement qu'il manque de révélation dans ta vie. Probablement qu'il manque de découvrir comme il est merveilleux. Ça veut dire que la parole de Dieu n'est probablement pas suffisamment présente dans ta vie. Parce que c'est de là, pour nous, les Juifs comme les chrétiens, notre adoration est une réponse à la révélation de Dieu. Donc, on va aller vers Dieu, il va se faire connaître à nous, et puis on va commencer à l'adorer. Révélation, alliance. Alors, l'adoration dans l'Ancien Testament est une réponse à ce que Dieu a fait. Dieu va sauver son peuple et puis va entrer dans une alliance avec eux. Donc, si on pense à l'adoration dans l'Ancien Testament, on doit penser à la révélation, on doit penser à la rédemption. Dieu va sauver un peuple et puis on doit penser à l'alliance. D'accord? Ça, c'est trois thèmes qui sont majeurs puis qui vont rester à travers, après ça, qui vont évoluer, mais qui vont rester à travers toutes les Écritures. Si vous allez à la page 4 des notes de la leçon 1, un passage clé, vraiment un passage qui contient beaucoup, qui dit beaucoup sur l'adoration dans l'Ancien Testament, Exode 19, versets 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Alors, ils étaient esclaves en Égypte. Dieu les a sauvés, les a libérés. Et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Dans ces trois versets-là, on a à peu près, on a une des meilleures synthèses de ce que c'est l'adoration. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'idée que Dieu a racheté. C'est Dieu qui crée son peuple d'adorateurs. C'est lui qui les a rachetés, qui les a sauvés, les a amenés à lui. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Je vous ai amenés à moi. Toute notre adoration, même pour nous ce matin, on va louer le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on vient constamment à l'Évangile de Jésus-Christ? C'est parce que c'est Dieu qui nous a amenés à lui et nous, on répond à son geste. C'est lui qui a initié cette communion-là en nous rachetant. C'est exactement ça qu'on a ici. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, si vous continuez à rester connecté pour écouter ce que je suis en train de vous dire, parler à vos cœurs, les choses que je veux corriger, les instructions que je veux vous donner, si vous recevez ça et si vous gardez l'alliance qu'on a contractée ensemble, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Puis là, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Ce qui va nous permettre de rentrer dans la deuxième partie de la leçon 1, sur laquelle je suis allé vite là, la semaine dernière, puis on n'a pas complété. Donc, la vision de Dieu, c'est qu'Israël va devenir un royaume de sacrificateurs, une nation sainte qui est consacrée à Dieu. Un royaume de sacrificateurs. Retenez ça lorsqu'on parle de continuité puis de discontinuité. Quand on va arriver dans le Nouveau Testament, ça va se transformer, mais c'est définitivement, on est en continuité. On est le dimanche matin, quand l'Église se réunit, les chrétiens qui sont ici sont des prêtres dans la maison de Dieu, qui sont en train d'adorer Dieu puis en train d'offrir des sacrifices de louange, d'adoration, d'action de grâce, offrir nos corps. Fait qu'il y a vraiment une continuité, mais on va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer à travers le cours. Donc, dans l'Ancien Testament, l'adoration se passe autour d'un lieu. Puis, ce que je voudrais souligner par rapport à ça, donc, Dieu va donner à Israël le tabernacle. Puis, ce lieu-là représente, la première chose que ce lieu-là représente, c'est quoi selon vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Qu'est-ce que le tabernacle représente comme idée, la première idée, peut-être la plus importante? La présence de Dieu. Le tabernacle représente le fait que Dieu est dans l'alliance avec Israël, il est présent au milieu d'eux. C'est ça la première fonction du tabernacle. C'est de dire « j'habite au milieu de ce peuple-là ». À l'intérieur de ça, il va avoir la notion des sacrifices, comment est-ce qu'on va rencontrer ce Dieu-là. Mais le tabernacle représente la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est la manifestation concrète qu'il y a une alliance entre Dieu et son peuple. Parce que Dieu réside au milieu de son peuple. Donc Dieu concrètement veut démontrer, veut faire connaître à Israël et par le fait même veut faire connaître à toutes les nations environnantes qu'il est entré dans une alliance avec le peuple d'Israël et qu'il habite au milieu de son peuple. Ça va être ça, la fonction première, la présence permanente de Dieu au milieu de son peuple. Puis au bas de la page 4, on pose une question à laquelle ça serait vraiment pertinent que vous trouviez la réponse. L'idée de présence de Dieu au milieu du peuple est fondamentale dans l'Ancien Testament. Quelle place occupe-t-elle dans le Nouveau Testament? Vous pouvez le garder à l'esprit, puis on le verra plus tard, mais c'est quelque chose qu'on doit saisir, on doit comprendre. Au haut de la page 5, Dieu est certes considéré comme invisible, mais quand il s'exprime et manifeste sa présence, l'Ancien Testament parle de la révélation de la gloire du Seigneur. Donc, Dieu va révéler sa gloire au milieu de son peuple. Il demeure invisible. Il demeure invisible même à l'intérieur du tabernacle, mais il va manifester sa gloire et ceci va manifester sa présence. Et donc, le tabernacle avec les sacrifices qui vont se faire là, devient le lieu où le peuple d'Israël va rencontrer Dieu. Va aller rencontrer la personne de Dieu directement. Puis Dieu va établir des règles qui vont permettre cette rencontre-là entre des hommes qui demeurent pécheurs, des êtres humains qui demeurent pécheurs, et puis un Dieu saint. Et là, Dieu va instaurer des règles qui vont permettre à ces pécheurs-là de venir le célébrer, de venir l'adorer, de venir s'approcher de lui. Évidemment, ce qu'on voit rapidement à travers l'histoire, c'est que le peuple d'Israël est rebelle et a constamment besoin d'être pardonné, de venir offrir des sacrifices pour être purifié de ses péchés. Donc, ils vont avoir des fêtes sacrées qui vont leur rappeler toutes les fois où Dieu a été gracieux, comment est-ce que Dieu les a sauvés, comment est-ce que Dieu les a établis. Et puis, Dieu va leur donner un système de sacrifices en Israël qui vont leur permettre à la fois de célébrer Dieu, puis à la fois de rétablir une communion avec Dieu. Donc, ils ont déjà été rachetés, ils sont entrés dans l'Alliance, puis à travers le tabernacle, ils vont venir adorer Dieu en rendant grâce, en remerciant Dieu pour l'abondance, les richesses qu'il donne, le fait qu'il veille sur eux, le fait qu'il est bon pour Israël, qu'Israël est son peuple, mais ils vont pouvoir aussi restaurer la relation avec lui dans la mesure où ils ont péché. Et donc, ça va être tout le système sacrificiel qui va être présent à cet endroit-là. Si vous allez au milieu de la page 6, j'écris « Les sacrifices pour le péché et les sacrifices de réparation reflétaient l'intention de la loi mosaïque de traiter à la fois la transgression et les conséquences afin de préserver la relation d'alliance d'Israël avec Dieu. » Si vous regardez à la fin de ce paragraphe-là, la confession du péché est mentionnée en rapport avec ces deux rites, ce qui suggère qu'en l'absence de repentir sincère, le rite ne servait à rien. Donc, c'est pas quelque chose qui va se faire mécaniquement. C'est pas quelque chose qui est simplement un rituel. À chaque année, on va monter là-bas, on va offrir des sacrifices. C'est une transaction qu'on est en train de faire. C'est pas ça du tout. Les sacrifices qu'on venait offrir devaient être l'expression d'une repentance. Ou ce que je désire, c'est honorer Dieu. Les rituels peuvent facilement comme perdre. Ici, on a un mémorial qu'on fait une fois par mois, on prend le repas du Seigneur. C'est facile ça pourrait être très facile de passer à travers ce moment-là, puis juste être comme déconnecté, détaché dans notre tête, puis on est juste en train de faire une espèce de rituel qui devient vide, mais c'est l'occasion pour nous de revoir l'Évangile. Et donc, ce que Dieu fait, c'est qu'il leur donne un temple, le tabernacle avant la construction du temple, où ils vont pouvoir venir le rencontrer. Il leur donne des fêtes pour se rappeler et il leur dit, vous allez fêter la Pâque, à chaque année vous allez venir, puis vous allez adorer Dieu, puis vous allez offrir des sacrifices. Lorsqu'ils viennent offrir ces sacrifices-là, c'est l'occasion de s'examiner pour voir où est-ce qu'on en est dans notre relation avec Dieu, dans notre respect de l'Alliance, dans notre manière d'honorer l'Alliance. Puis c'est l'occasion de se remettre en question et de se repentir. On va le développer un petit peu ce matin, mais c'est très, très, très différent de ce qu'on trouve dans les religions environnantes, où on craint des dieux de qui on veut avoir la faveur pour être béni. C'est pas la notion d'une repentance envers le Dieu universel, le seul Dieu créateur, de qui émane la justice, le bien, la droiture, et qui veut qu'on représente ça. On est dans deux univers complètement différents. Il y a les adorateurs d'idoles qui veulent recevoir des bénéfices de ces idoles-là. Puis ça, c'est pas entièrement exclu dans notre relation avec Dieu. On veut qu'il nous bénisse. Mais on est dans un autre environnement avec Dieu parce que Dieu a créé l'humanité. Dieu est la bonté. Dieu est la sainteté. Dieu, il est l'amour. Et donc, il instruit son peuple pour que le peuple marche en conformité avec ce qu'il est. C'est ça le but. Israël est appelé à marcher comme Dieu est, puis à vivre en communion, pas simplement relationnelle avec lui, mais en communion avec ce qu'il est dans ses principes, dans sa personne. Et donc, lorsqu'Israël vient offrir des sacrifices, c'est l'opportunité, c'est l'occasion de s'examiner pour voir comment est-ce qu'on a traité l'Alliance. Comment est-ce qu'on s'est comporté envers l'Alliance? C'est très, très, très différent de ce qui se passe partout autour, d'accord? Il y a des dimensions qui sont similaires dans le sens que je crains Dieu. C'est vraiment Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Il est plus à craindre que, je ne sais pas moi, le Dieu du tonnerre, puis le Dieu du soleil, puis le Dieu de l'agriculture, puis le Dieu de la fertilité. Non, là, on parle du Dieu de tout. Ça fait qu'il est plus à craindre, définitivement. Donc, il y a des choses qui sont similaires. Mais en même temps, je veux entrer puis honorer une alliance avec celui qui est non seulement le créateur de tout, mais celui qui est tout, celui qui est la bonté, celui qui me donne toutes les règles de vie, de civilité, celui qui est parfait. Et donc, les sacrifices, c'est l'opportunité de se remettre en question. Juste avant d'aller plus loin, parce qu'on est à peu près en train de terminer la leçon 1, est-ce qu'il y a des questions sur ça? J'ai un micro, j'ai besoin, Armand, que tu parles dans le micro. Je ne sais pas si Antoine ou quelqu'un pourrait faire circuler le micro. Oui, mais pour Internet, ça ne marche pas. Ta voix ne traverse pas les ondes. Merci, Armand.
Une seule chose, c'est que j'ai vu que tu dis la invisibilité de Dieu.
Oui.
Parmi Israël, mais il s'est manifesté à travers la colonne de nuit, puis à travers la fameuse Shekinah, que c'est un phénomène
oui.
lumineux que les Juifs traduisent par oui. la gloire de Dieu, par une lumière, etc.,
oui.
qui selon si on va dans des anciens écrits, le Talmud, puis d'autres écrits techniques, c'est comme une arc électrique qui était sue entre les deux chérubins.
Oui.
Donc, l'invisibilité de Dieu, il y avait une certaine visibilité assez...
Oui.
Jusqu'à ça l'air que, autant que l'arche a été capturée par le... Comment ça s'appelle? L'arche, te rappelles-tu?
Oui. Donc, Dieu est présent, puis lorsqu'il est présent, il est visible.
Il y a une certaine visibilité.
Oui.
Puis l'autre, c'est que seulement les Lévites étaient les prêtres, okay, qui représente en fait, moi j'imagine, qu'est-ce qu'il dit Pierre, dans le premier de Pierre, que nous sommes une nation sainte, royaume de souverain sacrificateur, etc. Okay.
Oui, donc c'est deux commentaires que tu veux faire.
Oui.
Oui, absolument. Fait que, oui, c'est vrai que Dieu, à certains moments, va se manifester de manière visible, mais c'est à travers un nuage. Donc, il n'y a pas une apparition de la personne de Dieu. Il y en a quelques-unes, là. Il y a des théophanies aussi, il y a des apparitions de Dieu, mais ça, c'est une autre question, c'est un autre sujet. Dans l'essence, c'est pour ça que je disais, Dieu va manifester sa gloire, puis sa gloire va se manifester à travers la Shekinah, à travers un nuage, à travers... Donc, lorsqu'il apparaît dans le buisson ardent, il n'y a pas une personne que nous, on pourrait identifier, même si ça avait été une forme pas humaine, il n'y a pas de forme, il demeure intangible, mais... Il se présente aux yeux de l'homme à travers la manifestation de sa gloire. C'est tout à fait vrai. Et même ça, ça demeure très exceptionnel. C'est très, très, très exceptionnel. C'est dans des moments, puis en fait, ça semble être quelque chose d'assez intolérable pour l'être humain, comme expérience. Assez que le peuple d'Israël va dire à Moïse, « Dis à Dieu d'arrêter de nous parler, puis qu'il te parle à toi. » Et tu nous parleras de ce qu'il a dit, parce que ça devient insupportable. Puis c'est pas juste le peuple d'Israël qui vit ça. En fait, je pense que Moïse, on n'a pas de récit où pour lui c'est insupportable, mais pour plusieurs autres, ils tombent par terre, puis il faut que Dieu vienne les... Rappelez-vous dans Ésaïe, il faut que Dieu vienne les soutenir, parce qu'autrement, ils sont là, puis je suis dans la présence de Dieu. Puis l'autre commentaire que tu faisais, c'était... Oui, la nation de sacrificateurs. Merci. Alors, ça va être un élément, justement, de continuité, de discontinuité. Dans l'Ancien Testament, Dieu va assigner une des tribus d'Israël pour être ceux qui vont s'approcher de Dieu, du Dieu dont la présence est trop énorme et trop grande pour être tolérable à l'être humain. Dieu va choisir une des tribus qui vont être les représentants. Maintenant, je trouve que c'est quand même intéressant de souligner dans le passage, lorsqu'il dit « Vous allez être une nation de sacrificateurs », je crois que c'est juste et biblique de dire qu'il y a une tribu qui sont les sacrificateurs qui vont faire le service au temple, au tabernacle, mais d'une manière aussi très réelle et très tangible, tous les Juifs, toute la nation, devaient représenter, refléter la personne de Dieu pour le monde autour d'eux. D'accord? Donc, il y a des sacrificateurs, c'est très clair, mais pour qu'ils les appellent une nation de sacrificateurs, c'est que la vie d'Israël, toute la vie du peuple de Dieu, devait être une proclamation de la gloire de ce Dieu-là, par leur manière de vivre, leur manière d'agir. Puis ça aussi, c'est un thème qui va... On va le développer, en fait, un peu ce matin, ça. Qu'est-ce que ça veut dire adorer dans l'Ancien Testament? Ça veut dire, entre autres, servir. Ça veut dire vivre d'une certaine manière dans l'Ancien Testament. Ça, on va développer ça. Et je pense que cette idée de nation de sacrificateurs fait partie de ça, pour autant que j'en comprenne. Est-ce qu'il y avait une autre question? Tantôt, j'ai vu comme une autre main. Où ça va? Camille, tu avais une question? Je m'excuse, ça me prendrait un porteur de micro. Je ne cherche pas un porteur d'eau, mais un porteur de micro. Merci, Camille. Mais bien, tu peux le laisser peut-être sur la chaise.
Oui, c'était juste, je trouvais que ça faisait un lien avec le Hébreu. Hébreu 10 fait le lien avec l'Ancien Testament puis le Nouveau, là, qui dit que la loi possède une ombre des biens à venir. Fait que c'est, comme si, on a l'impression que l'Ancien Testament, il y a comme, c'est l'ombre, puis la vraie affaire, bien, c'est la Nouvelle Alliance qui est comme...
Oui.
Juste qui était là comme pour pointer vers le mieux. Mais c'est une continuité, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a une nouvelle alliance.
Absolument.
Parce qu'il y a des...
On va le développer.
La religion catholique a vraiment fait une continuité. Là,
c'est ça. La semaine dernière, dans la première leçon, tu avais évoqué ça justement, comment certains milieux n'ont pas compris la discontinuité. Fait que l'Église catholique a cherché à reproduire littéralement le tabernacle là, dans leur bâtiment d'Église. Puis ils n'ont pas saisi à quel point il y avait une discontinuité. On va le voir, ça. Maintenant, je vais rester sur l'image de l'ombre. C'est vrai que la loi, puisqu'on trouve dans l'Ancien Testament, est l'ombre des choses à venir. Mais pourquoi est-ce que le Nouveau Testament se réfère constamment à l'Ancien Testament? Une des raisons, c'est que ça annonçait, fait qu'on voit que c'est une révélation progressive. Mais une autre des raisons, c'est que des fois, les ombres nous aident à voir les choses plus claires. Des fois, on est tellement accroché dans des détails qu'on oublie comme l'essentiel, le principal. Puis, pour nous, retourner dans l'Ancien Testament nous aide des fois à voir de manière très illustrée. C'est comme si, dans l'Ancien Testament, il y a 1000 illustrations, d'accord? Parce que les rituels qu'ils pratiquaient, c'était des illustrations. C'était une méthode pédagogique de Dieu pour que le peuple d'Israël apprenne constamment. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, l'illustration, c'est Jésus-Christ, d'accord? Après ça, tu vas voir l'Église, mais toutes les illustrations de l'Ancien Testament, pratiquement, se retrouvent concentrées dans la personne de Jésus-Christ. Puis, si on perd ces illustrations-là très, très puissantes dans l'Ancien Testament, on peut arriver vers le Nouveau Testament puis dire, « Ah ouais, mais Jésus, tu sais, c'est une personne, puis une personne, tu sais, tu vis de l'intimité avec lui, puis tu vas vivre une communion avec lui. » Mais c'est intéressant parce que lorsqu'on est dans l'Ancien Testament, par exemple, la notion d'intimité n'est pas très, très présente dans l'Ancien Testament. Par rapport à l'adoration. Fait que nous, on arrive dans le Nouveau Testament avec la lecture de notre époque, avec nos yeux, puis là, on dit, ah, tu sais, si vraiment j'étais en communion avec Jésus, je sentirais son amour, puis je suis en relation avec une personne, puis c'est vrai, puis on pourrait aller dans les psaumes, puis on pourrait voir des passages qui disent des choses comme ça, mais quand je retourne dans l'Ancien Testament, je dis, OK, attends un peu, là, c'est pas ça l'essence de l'adoration, comme toute cette espèce de subjectivité-là. C'est plus un engagement du cœur où je suis en train de servir. Fait que retourner dans l'Ancien Testament me permet juste de reprendre ces ombres-là, parce que des fois, les ombres nous aident à revenir à l'essentiel, à décoller un peu des détails. Je sais pas si ça aide. Fait que Fait que c'est bon pour nous de faire ça, parce qu'autrement, on peut en venir à déformer des choses dans notre expérience. Par exemple, tu dis, « Yannick, moi, j'adorerais le Seigneur plus souvent, mais je ne ressens pas grand-chose envers lui. » Puis c'est vrai que Dieu nous demande de ressentir des choses envers lui. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Les émotions sont comprises. Mais moi, je vous soumettrais que de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, ça ne commence pas par les émotions du tout. Ça parle premièrement de la volonté. Ça ne parle pas des émotions en premier, cela. Non. Ça parle de ma volonté. J'ai considéré ce que Dieu a fait pour moi. Je le considère quotidiennement, puis je dis, hey, je comprends que je ne le file peut-être pas un matin, là, mais la seule réponse logique, c'est que je vais te servir, Seigneur, aujourd'hui. Tu es trop merveilleux. Puis voyez-vous, c'est comparaison avec le mariage. Je ne me sens pas amoureux tous les matins envers mon épouse. Mais je prends le temps de m'arrêter, puis je dis, cette femme-là s'est engagée envers moi à m'aimer jusqu'à la mort. Puis Dieu sait que je ne suis pas un mari parfait, puis elle n'est pas en train de courir partout, elle est encore là. Je m'engage aujourd'hui à la servir, à prendre soin d'elle, à être celui qui va prendre soin de cette alliance-là. D'accord? Fait que c'est bon de retourner là aussi vers ces ombres-là qui nous ramènent vers l'essence de l'adoration. Parce qu'autrement, il y a des choses qui... C'est comme si l'illustration parfaite qui est Jésus, des fois, ça, il y a comme des éléments qu'on perd. Fait que ce qu'on est en train de faire ce matin, c'est qu'on est en train de se préparer à aller découvrir l'adoration dans le Nouveau Testament. Puis là, on va souligner les éléments de continuité, de discontinuité. Je ne sais pas si ça aide un peu, là, c'est d'excellentes questions puis de bons commentaires que vous faites. Si vous avez une question, Mme Paradis, il faudrait prendre le micro. Camille va la tenir pour vous, parce que même si vous parlez fort, ça ne traverse pas Internet.
J'étais dans la religion catholique avant, puis... Oui. On appelait celui qui parlait en avant le prêtre.
Oui.
Et j'aimerais, selon vous, avoir une définition du mot prêtre, disons vis-à-vis la religion catholique, et prêtre, comme vous avez mentionné tantôt, au point de vue biblique.
Bien, oui, bonne question. Merci, Mme Paradis. Bien, en fait, je vous dirais... oui, mais je vais... Oui. Ah, ça, c'est une bonne question. Il faudrait que j'aille voir si ça vient du latin ou du grec. Fait que juste comme ça, je ne saurais pas vous répondre sur l'étymologie du mot. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le rôle du prêtre dans l'Ancien Testament, c'est d'être celui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. D'accord? C'est celui qui vient au nom des hommes vers Dieu, puis au nom de Dieu vers les hommes. Ça ne change pas dans le fond. Ça ne change pas vraiment. Ce qui change, c'est que dans l'Ancien Testament... Il y a une tribu qui est consacrée à jouer ce rôle-là. Et lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, c'est là que l'Église catholique a complètement manqué son coup. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, le seul souverain sacrificateur, le seul prêtre ultime, c'est Jésus-Christ. Et à travers son œuvre à lui, maintenant, tous les chrétiens peuvent faire les fonctions du prêtre dans l'Ancien Testament, peuvent s'approcher de Dieu, puis parler... aux hommes de la part de Dieu, puis parler à Dieu en faveur des hommes, intercéder. Fait quand moi, je vais intercéder comme chrétien, puis je vais prier, je le fais, je prie, admettons, pour ma famille, je prie pour Longueuil, je prie plein de monde, je le fais en sachant que j'ai exactement le même accès, même supérieur, à la présence de Dieu que les prêtres dans l'Ancien Testament. Alors, la grande faute de l'Église catholique, bien là, je ne prétendrais pas que les prêtres dans la religion catholique ont vraiment accès à Dieu. Ça, ce serait une autre question. Mais dans leur esprit à eux, ils sont comme dans l'Ancien Testament. Il y a juste ceux qui ont accès à Dieu. D'accord? Et donc, ils sont là pour jouer un rôle. Puis là, si on comprend bien ce qui se passe, là, ils sont en train d'usurper, de voler la place de Christ. Parce que les prêtres dans l'Ancien Testament... jouaient le rôle de Christ dans un sens. D'accord? Ils accédaient à Dieu au nom d'un sacrifice à venir qui était Jésus, tout ça, mais c'est eux qui ouvraient comme qui rétablissaient la relation entre le peuple puis entre Dieu. Christ vient, Puis ça, c'est plus nécessaire. Maintenant, tous ceux qui placent leur foi en Jésus ont tous accès à Dieu. L'Église catholique a dit non. C'est à travers nos prêtres que tu vas avoir accès à Dieu essentiellement. Mais ces prêtres-là sont en train d'essayer de prendre la place de Jésus. Littéralement. Parce que c'est plus vrai, ça. Maintenant, c'est tout le monde. Fait que c'est pas juste qu'il nous enlève, nous, un rôle qui est accordé à tous les croyants. C'est pas simplement ça. C'est qu'ils sont en train de dire, on est comme dans l'Ancien Testament, puis il y a certains hommes qui, eux, ont accès à Dieu. Non, mais ça, c'est eux, ils préfiguraient tout Jésus. Ils annonçaient tout Jésus qu'elle allait être le souverain sacrificateur. Fait que c'est pas juste qu'ils nous enlèvent quelque chose à nous, c'est qu'ils essaient de prendre la place de Christ. Fait que c'est vraiment énorme. Puis c'est bon de comprendre ça, parce que lorsque tu vas là, puis tu entends comme l'Évangile dans un service funéraire, de plus en plus, là, quand tu vas dans un service funéraire, tu entends le prêtre catholique, puis ça ressemble beaucoup à l'Évangile, tu sais, énormément. Des fois, l'Évangile est tout, pas tout, mais tout ce qu'ils disent est vrai. Si on continuait à discuter, il y aurait des choses qu'ils diraient qui sont fausses, mais des fois, ça m'arrive, là, tout ce qui a été dit, c'est vrai, c'est tout vrai. Je sais que ça repose sur une autre théologie aussi qui n'est pas toute vraie du tout. Mais donc, c'est bon de comprendre ces choses-là, de comprendre que, non, ils sont aussi en train d'usurper la place de Christ comme prêtre. Ça me fait plaisir. Bien, on va au moins compléter la leçon 1 ce matin. Mais c'est des bonnes questions, excellentes questions. Alors, oui, je termine avec ça pour la leçon 1. Dans le fond, au fur et à mesure qu'on avance dans l'Ancien Testament, Il y a comme une espèce de bruit de fond qui commence à s'installer chez les prophètes. Alors, dans l'Ancien Testament, j'ai les prophètes qui sont en train d'annoncer, ils parlent au quotidien, au peuple vers qui Dieu les envoie, mais souvent, en parlant à ce peuple-là, ils vont aussi annoncer ce que Dieu va faire dans l'avenir. Et donc, il y a une espèce de bruit de fond qui, au début, est un peu confus, mais qui va se clarifier, qui va même aller jusqu'à dire, « Oh, mais les sacrifices, c'est bien, mais c'est pas tout, cette affaire-là. » Parce qu'en réalité, il y a quelque chose de plus important que les sacrifices, c'est ce qui se passe dans le cœur. Et puis, un jour, il va y avoir un temple parfait qui va être instauré. Le temple va être détruit une fois, ils vont reconstruire le temple. Ceux qui vont le voir vont même être déçus. Il n'est pas aussi grand que le temple que Salomon a construit, tout ça. Mais il y avait raison d'être déçu, parce que le temple qui est annoncé par les prophètes, c'est pas celui qui a été reconstruit. Il faut arriver dans le Nouveau Testament, mais c'est Jésus. Tout à l'heure, vous pourrez apprécier un peu plus tantôt quelque chose que je vais mentionner, ou bien si je suis distrait, si je ne le mentionne pas, vous l'aurez là. Mais tout à l'heure, on va être dans Jean 1, les versets 35 à 51 pendant l'exposé biblique, puis Jésus fait une allusion à la fin de ce passage-là. Il fait une allusion au moment où Jacob est dans le désert. Puis Jacob a une révélation de la personne de Dieu, puis il voit des anges qui montent puis qui descendent du ciel. C'est Bethel, puis il va appeler cet endroit-là la maison de Dieu, l'endroit où Dieu vient rencontrer les hommes. Puis dans le passage de ce matin, Jésus va faire allusion à ça, clairement, lorsqu'il va dire, « Vous allez voir Dieu qui va se manifester sur le Fils de l'homme. » Constamment, vous allez voir ça. Il leur annonce la suite de son ministère. Puis Jésus, à ce moment-là, est en train de faire allusion à Bethel, puis est en train de dire, « c'est moi le lieu où vous allez voir les cieux s'ouvrir, vous allez voir Dieu établir une relation entre Dieu et les hommes. C'est moi Bethel, c'est moi la maison de Dieu. » Il est en train de pointer vers le vrai temple qui est annoncé dans les prophéties dans l'Ancien Testament. Maintenant, donc, il y a un bruit de fond qui s'installe chez les prophètes au fur et à mesure qu'on avance dans l'Ancien Testament qui dit, ça ne marche pas tout ça. Ça ne marche pas tout ça parce que vous en faites des rituels qui sont complètement faux. Vous venez offrir des sacrifices, mais en même temps, vous êtes fourbe toute la semaine. Fait qu'il y a quelque chose de plus grand qui s'en vient, quelque chose de, où vous allez vraiment être des adorateurs en esprit, en vérité. Ça s'installe de plus en plus dans les livres prophétiques dans l'Ancien Testament. Alors, en conclusion pour la leçon 1, si vous allez à la dernière page des notes, à la page 9, premier paragraphe, pour comprendre l'approche vétérotestamentaire, ça veut dire l'Ancien Testament, néo-testamentaire, Nouveau Testament, vétérotestamentaire, Ancien Testament. Pour comprendre l'approche vétérotestamentaire de l'Ancien Testament, il est essentiel de saisir que le Dieu du ciel et de la terre avait pris l'initiative de se révéler. Là, j'insiste sur ces choses-là parce que c'est des choses que nous, on veut retenir comme chrétiens, d'accord? Dieu prend l'initiative de se révéler, d'abord au patriarche, puis par les événements de l'Exode, la rencontre du mont Sinaï et l'ensemble du peuple d'Israël. Le livre de l'Exode le proclame, « Dieu a libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte afin qu'il le serve et l'adore à l'exclusion de toute autre divinité. Dieu a racheté son peuple afin que ce dernier soit en relation avec lui, d'abord sur la montagne de Dieu. » Et on va passer à la leçon 2. On est encore dans l'Ancien Testament. Là, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va au moins le commencer ce matin. Une autre chose qu'on peut apprendre à partir de l'Ancien Testament pour grandir comme adorateur, pour adorer Dieu, c'est le langage de l'adoration dans l'Ancien Testament. Il y a des mots qui sont utilisés spécifiquement en relation avec l'idée d'adorer Dieu, qui nous aident à approfondir, à comprendre davantage qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu. Puis, il va y avoir une continuité aussi. Fait que ce langage-là est utile parce qu'il y a une continuité dans le Nouveau Testament. J'ai le goût de vous dire que tout ce qu'on va voir dans la leçon 2 est vraiment continuité. C'est vrai pour nous comme chrétiens. Ça va se traduire de manière un petit peu différente, mais ça demeure absolument vrai. Donc, grand thème qu'on a vu à travers la leçon 1, Dieu se révèle, il rachète, il invite le peuple d'Israël à entrer dans une alliance avec lui, et cela va faire qu'ils vont avoir une vocation, ils sont appelés à vivre comme un peuple de sacrificateurs. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire adorer dans l'Ancien Testament? Quel est le langage qui est utilisé? Puis là, je veux juste vous mentionner quelque chose au cas où vous ne le sauriez pas. Mais quand on est dans... Bon, les Juifs ont traduit, les Juifs ont subi plusieurs déportations dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fidèles à Dieu. Dieu leur avait dit, si vous n'êtes pas fidèles, j'arrête de vous protéger. Ils arrêtent de les protéger, ils sont envahis par des peuples étrangers. Dieu leur avait dit, si vous faites ça, vous allez être vaincus, vous allez être déportés, vous allez être envoyés un peu partout. Puis là, ça se produit, tel que Dieu l'avait annoncé. Puis ça crée une espèce d'immense diaspora. C'est tous les Juifs qui ne sont plus en Israël, d'accord? Et donc, les Juifs qui n'étaient plus en Israël, bien, il s'est passé plein de choses, mais deux choses que je voudrais souligner ce matin. Une d'entre elles, c'est plusieurs d'entre eux vont perdre l'hébreu, la langue de l'Ancien Testament. Mais non seulement ça, c'est que en étant déportés ailleurs, bien, ça fait d'eux aussi des missionnaires dans une certaine mesure, d'accord? Parce qu'ils avaient quelque chose d'absolument unique. Israël connaissait le seul Dieu. Ils étaient monothéistes, d'accord? Puis je veux dire, quand tu prends le temps de comparer le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Ancien Testament, avec toutes les divinités qu'il y a là-bas, tu te dis, si j'avais été, je ne sais pas moi, un adorateur de 12 idoles, là, pour une pour mon blé, une pour faire des petits, une pour la température, une pour ma santé, tout ça. Puis là, tu t'assois avec un juif, puis il commence à te parler de Dieu, tu te dis, aïe, aïe, OK, ça, c'est un Dieu qui est complet, qui mérite d'être adoré, d'être servi. Puis on vit ça des fois lorsqu'on est en train de jaser avec des amis. On parle avec un ami qui n'est pas chrétien, tu sais, quelqu'un qui est un peu curieux, pas trop défensif, commence à poser des questions. Puis là, tu commences à expliquer un peu tout l'Évangile, puis tout ça. Puis régulièrement, les gens vont dire comme, aïe, aïe, ça fait tellement, excusez l'anglais, ça fait tellement de sens, tout ça, ça se tient, c'est impressionnant. Peut-être qu'ils n'en veulent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont repentants, mais il y a une sympathie pour ce système-là, d'accord? C'est, je pense, une des raisons fondamentales pour lesquelles la culture occidentale est en grande, grande, grande partie construite sur le christianisme, sur les valeurs judéo-chrétiennes. Ah oui, ça fait du sens, c'est Dieu qui nous les a donnés, fait que c'est pas farfelu. Mais ce que ça faisait, c'est que les Juifs qui étaient déportés, donc dans la diaspora, plusieurs d'entre eux perdent leur langue, mais en même temps, ils deviennent des espèces de missionnaires, puis il y a des sympathisants du judaïsme qui commencent à se greffer, à graviter autour de ces petites communautés juives-là dans toutes les villes. Et là, ces gens-là ont besoin de lire l'Ancien Testament, de l'étudier s'ils veulent le découvrir. Alors, on va créer la Septante. La Septante, c'est une version grecque de l'Ancien Testament. Longue introduction, simplement pour dire que souvent, les auteurs du Nouveau Testament, lorsqu'ils citent l'Ancien Testament, souvent ils citent la Septante. D'accord? Fait que c'est quand même intéressant, là, lorsque des fois vous entendez des gens, par exemple, une des conversations qu'on peut avoir avec des musulmans. Les musulmans, si tu prends un Coran qui est en français, puis tu commences à leur citer des versets coraniques pour dire, il y a quand même des choses qui... Je sais pas, là, t'es vraiment en paix avec ce que ton Coran dit, tu sais, puis tu commences à challenger la conversation. Quand il n'y a plus d'argument, l'argument, c'est lequel? Tu ne peux pas le comprendre parce que ça a été écrit en arabe, ça a été révélé en arabe, puis il y a juste l'arabe qui rend la vérité sur le texte. C'est la seule manière que tu peux le comprendre. Fait que quand tu me cites ton texte français, je comprends que moi-même, je ne suis pas très à l'aise avec ça, mais ce n'est pas ça que le texte dit dans le texte révélé. Bien, le Dieu de la Bible nous dit qu'il peut se faire connaître à travers toutes les langues du monde. J'en prends pour preuve que le Nouveau Testament, qui est selon nous un texte inspiré par l'Esprit de Dieu, cite souvent, non pas le texte hébraïque, mais le texte grec de l'Ancien Testament. Quand même intéressant, hein? Quand même intéressant. Donc, Dieu est assez grand pour se faire connaître à travers une Bible qui est traduite dans toutes les langues de la terre. D'accord? Puis, c'est bon de se promener dans différentes traductions pour voir si c'est la meilleure traduction. Je ne suis pas en train de dire que toutes les traductions sont inspirées, mais Dieu peut se faire connaître à travers elles. Puis, pour nous, c'est pertinent parce que... La richesse de la parole de Dieu veut que, des fois, je vais regarder un terme en hébreu pour comprendre. Tantôt, on parle du langage, de l'adoration. Je vais regarder un terme en hébreu, mais je vais aller voir quel terme grec les auteurs du Nouveau Testament utilisent pour citer ce passage-là qui était à l'origine en hébreu. Fait que là, j'ai l'hébreu pour comprendre ce qui se dit, mais j'ai le grec aussi parce que les auteurs du Nouveau Testament l'ont cité, le grec. Donc, il y a quelque chose d'autre qui est là. Fait que c'est pour ça que je voulais juste expliquer le fait que vous allez m'entendre parler à la fois du grec puis de l'hébreu, puis du grec puis de l'hébreu, puis on est dans l'Ancien Testament, de quoi on parle ici. Il nous reste 3 minutes pour introduire, je m'excuse. Fait que je pense que je vais commencer avec juste 2 choses, puis on va s'arrêter là. Dans l'Ancien Testament, une particularité de l'Ancien Testament et de l'adoration, c'est que le vocabulaire, le langage qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler sur l'adoration, fait souvent référence à des gestes physiques. Fait qu'adorer va, en réalité, le sens du mot, ça va être se prosterner, admettons. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'intéressant quand même pour nous, où nous, on est un petit peu comme à un autre endroit où c'est très, très puriste pour nous, puis, tu sais, c'est comme ça se passe tout dans mon cœur, cette affaire-là. Dans l'Ancien Testament, l'adoration, les mots utilisés sont en relation avec des gestes physiques, généralement, qui vont illustrer ce qui est en train de se passer dans le cœur. Fait qu'un commentaire qu'on entend des fois, puis je pense qu'il est pertinent, c'est que... Peut-être qu'on va trop loin comme chrétien lorsque, pour nous, adorer Dieu, c'est quelque chose qui se passe tout à l'intérieur, puis il ne faudrait pas être trop, trop expressif, puis je voudrais défendre que ce n'est peut-être pas vraiment biblique, cette idée-là. C'est peut-être pas biblique. Puis si vous dites, j'ai de la difficulté, moi, à prier à la maison, j'ai de la difficulté à adorer, bon, mais je vais dire quelque chose de farfelu, couche-toi donc par terre. Puis regardons vers le sol pour parler à celui qui règne sur ta vie. La vérité, c'est que moi, j'adore, puis je prie bien en marchant. Mais je le fais bien aussi à genoux. Puis quand mon cœur est humilié devant Dieu, moi, là, je suis sincère avec vous, ça se passe toujours à terre. Ça finit par terre, en tout cas. Chez nous, là, si je suis humilié devant Dieu parce que je vois mon péché... Ça finit à terre, mon affaire. Fait que si votre corps n'a pas la liberté de poursuivre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, peut-être que vous avez essayé de faire de l'adoration quelque chose qui est trop cérébral, alors que c'est quelque chose qui se posait être plus entier, plus complet que ça. Je vous laisse réfléchir à ça, parce qu'on va les voir les termes la semaine prochaine. D'accord? Puis je termine donc avec ceci, ça va vraiment être juste l'introduction. Il y a trois grands groupes de terminologie qu'on trouve dans l'Ancien Testament ou de vocabulaire qui portent des idées qui sont proches mais qui sont différentes. L'adoration va parler d'hommage et de soumission reconnaissante. Ça, c'est un élément, je suis à la page 3. L'adoration va parler de servir très concrètement. Donc, c'est passer à l'action. Puis, l'adoration va parler d'une révérence, d'un respect, d'honorer. Hommage et soumission reconnaissante, servir, puis révérence et respect. Puis, ces trois idées-là sont en parfaite continuité dans le Nouveau Testament. Donc, si dans votre vision de l'adoration, c'est surtout quelque chose qui est comme Dieu, c'est mon papa que j'aime. Quand je rentre, puis je suis pas sarcastique quand je dis ça parce que c'est définitivement là dans les Écritures, c'est même là dans l'Ancien Testament. Mais si votre vision de l'adoration se résume à Dieu, c'est mon père que j'aime puis qui me prend dans ses bras, puis qui me rassure, puis que ça se résume à ça, bien, je vous soumets que votre compréhension de la paternité est manquante. C'est beaucoup plus que ça, la paternité même humaine dans la Bible. La paternité humaine ressemble même un petit peu plus à ça, à ces termes-là. Mais ça se peut qu'il manque des grands pans de votre adoration. Puis ça se peut que ça rende votre vie chrétienne pas mal difficile. Pas mal difficile. Parce que ce que vous attendez d'une relation avec Dieu ne ressemble pas tout à fait à l'adoration selon Dieu. Ne ressemble pas tout à fait à l'adoration selon la Bible. Fait qu'on a vraiment quelque chose à apprendre ici. Puis le Jésus qu'on imagine comme fondamentalement celui de notre intimité n'est pas tout à fait le Jésus de la Bible. Jésus de la Bible est terrifiant aussi. Il est grand, il est grandiose. Lorsqu'on va se présenter devant lui, sans même réfléchir, nos genoux vont plier. Sans aucune réflexion, comme le Dieu de l'Ancien Testament, parce qu'il est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est bon? On va continuer ça la semaine prochaine, on va être dans un mot de prière. Père éternel, on vient dans ta présence ce matin avec quelques pistes, quelques éclaircissements, Seigneur, sur qui tu es, comment tu veux être adoré, Seigneur. Et Seigneur, c'est un très, très grand privilège que tu accordes à des êtres humains limités comme nous lorsque tu te révèles à nous, lorsque tu prends l'initiative individuellement de te faire connaître à nous, Seigneur. Tu l'as fait avec Israël et il n'y a personne dans cette salle qui peut se dire chrétien sans que tu aies pris l'initiative, Seigneur. C'est toi qui es venu vers nous. Et ce matin, on veut apprécier, Seigneur, on veut mesurer, on veut savourer, Seigneur, on veut reconnaître que c'est toi qui t'es fait connaître à nous et c'est toi qui nous as rachetés. C'est toi qui nous as invités dans une alliance nouvelle en Jésus-Christ, mais dans une alliance avec toi, Seigneur. Et tu nous as mis à part pour une vocation, un appel spécial qui nous distingue du reste des hommes qui n'ont pas encore reçu cette révélation-là de toi, qui n'ont pas encore été rachetés par toi, qui ne sont pas encore entrés dans cette alliance, Seigneur. Seigneur, fais-nous grandir comme adorateurs. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.